autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation. Pour faire des bulles aujourd'hui, des bulles de champagne, s'il vous plaît, comment se forment-elles? Pourquoi remontent-elles à la surface? Et quel rapport entre ces millions de bulles qui montent à la tête et les autres bulles de soda ou de savon ou encore l'écume des vagues de l'océan? Quel mécanisme physico-chimique se cache derrière toutes ces bulles? Et pourquoi vouloir la coincer, la bulle, quand on est physicien? Réponse pétillante et effervescente de nos invités, le physicien Gérard Ligier-Belair et la chimiste Clara Cylindre, autour de la question « Pourquoi étudier les bulles de champagne ?» Bienvenue. Bonjour Gérard Ligier-Belair.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager la vie secrète des bulles, titre du très beau livre sur le champagne que vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes physicien et photographe de bulles, professeur à l'Université de Reims, où vous dirigez le laboratoire de recherche CNRS Effervescence, champagne et applications. Pourquoi et comment l'océanographe de formation que vous êtes s'est-il spécialisé dans l'observation, l'étude et la traque des bulles de champagne par goût, Gérard?
Alors oui, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez rigolote, qui est assez originale. C'est vrai que je suis océanographe de formation, enfin, physicien et océanographe, mais il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai eu un accident de plongée. Alors j'étais vraiment très très amateur de plongée, et suite à cet accident, je ne pouvais plus replonger, et du coup l'océanographie m'intéresse quand même nettement moins. Donc
mais sans la plongée, ça a
un peu
moins de charme.
Ça perd un peu de son charme. Et donc pendant quelques mois, j'ai songé à me reconvertir, sans trop savoir vraiment vers où aller. Et alors là, vraiment, c'est étrange. Je sais pas quel cheminement mental il s'est produit dans mon cerveau, mais je me suis mis à photographier des bulles. Alors c'était pas du tout les bulles du champagne à l'époque. Hein. Je terminais juste mes études, donc c'était
plus les bulles du fond de l'océan, mais c'était toutes les bulles possibles.
Voilà,
imaginables.
C'était des sodas, des bières, des boissons plus
des
modestes.
Des bulles, oui.
Mais je voulais absolument voir les phénomènes en gros plan. Les bulles qui remontent, les bulles qui forment la mousse. Donc, et j'avais un labo photo dans ma salle de bain à l'époque. Donc j'ai pris toutes ces photos chez moi. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte déjà que les photos étaient assez surprenantes. Vraiment, voir les bulles en gros plan.
C'est un univers.
C'est vraiment un univers.
Oui.
On voit qu'elles s'organisent. Il y a des espèces de géométrie très 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 esthétique d'ailleurs. Et puis au bout de quelques mois, je me suis dit, mais si ça se trouve, ça peut peut-être intéresser l'industrie du champagne, qui n'aurait peut-être pas été regarder les bulles sous cet angle-là.
Donc l'angle du photographe et l'angle du physicien.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Bonjour Clara Cylindre.
Bonjour.
Alors vous êtes biochimiste, oui. Maître de conférence à l'Université de Reims. Vous menez vos recherches donc sous la direction de Gérard Ligier-Belair dans ce laboratoire Effervescence, champagne et applications. Et vous, Clara Cylindre, ce sont les bulles aromatiques qui vous intéressent, pourrait-on dire. Vous étudiez en fait l'influence de l'effervescence sur les arômes et vice-versa, on peut le dire comme ça?
Tout à fait. Donc ça fait partie des thématiques qu'on développe au sein de l'équipe. Et c'est une grande thématique de l'équipe. Étudier les conditions de dégustation, donc pour un consommateur lambda, on va dire, quelles sont les meilleures conditions de dégustation pour pouvoir apprécier un champagne. Donc on va travailler sur la forme du verre, sur la température du vin, sur le volume de vin servi, sur comment servir votre vin dans le verre. Et on va étudier donc principalement les bulles, effectivement, mais aussi tout l'aspect festif et
autour du champagne. Champagne. Alors, grande ou petite bulle, il va falloir choisir. Autour de la question pourquoi étudier les bulles de champagne, on commence tout de suite par quelques pistes de réflexion effervescentes avec le mix, forcément pétillant, de Guillaume Ploquin.
Comme tous les matins, Gérard Ligier-Belair se sert une coupe de champagne. Ce n'est pas pour la boire, mais pour en étudier l'effervescence.
Physique des milieux complexes, physique statistique, c'est très compliqué ça.
Est giusto que, cioè è chiaro che viene.
Le champagne, c'est quelque chose de joyeux et qui fait penser à la fête.
Mais il y a aussi de la physico-chimie, parce que c'est pour des raisons physico-chimiques que les bulles de la bière ne sont pas les mêmes que les bulles de champagne.
Voilà. Une fois qu'on a compris tout ça, on peut ensuite dompter les bulles.
Et pourquoi il fait des bulles? Ça veut dire quoi, mon lapin, de faire des bulles hein, sous son nez? Il a raison, c'est gênant les bulles.
Évidemment, lorsqu'on va parler d'interface fluide, l'interface fluide, ça va être, par exemple, la surface de la mer est une interface fluide, une bulle de savon. et les petites gouttes ou l'eau dans un verre.
Le module océanographique Bob est dédié à l'observation de sorties de bulles en point fixe sur le long terme.
Est-ce que les bulles sont toujours sphériques ou pas ?
Quel est le devenir de ces bulles très spéciales ?
Alors, quand on met une coupe de champagne sous son nez, on sent que ça picote le nez un peu. C'est dû à quoi ? Bah, c'est dû au fait que ces bulles explosent, et quand elles explosent, évidemment, elles font des petites projections que votre nez reçoit.
Mes bulles !
Il adore les bulles !
Et ça explique aussi le pshhh, qui correspond en fait aux millions d'éclatements successifs de petites bulles, comme des millions de micro-explosions qui font ce petit bruit.
Pour ces quelques millimètres d'effervescence, combien d'efforts, combien de petits miracles de la physique ?
Combien de petits miracles de la physique ? Vous voulez réagir, Gérard Gébeler, à ce que vous venez d'entendre ?
Alors oui, c'était très intéressant, une très belle introduction.
Combien il y a de bulles dans un...
Combien il y a de bulles ?
Dans un verre de champagne.
Alors oui, on a fait ce calcul théorique. Alors, bon, c'est un calcul théorique dans le sens où il ne faut évidemment pas boire le champagne pour que les bulles se forment. Donc il faut laisser le champagne, la flûte de champagne dégazer tranquillement. D'ailleurs, ça durerait assez longtemps parce qu'il y a quand même des...
Pour qu'il y ait de plus en plus de bulles, hein. Alors, pour qu'il n'y ait plus que des bulles.
Non, c'est d'ailleurs le dès que vous avez servi votre champagne dans la flûte, vous voyez des bulles qui se forment. Les bulles se forment parce qu'il y a d'assez grandes quantités de dioxyde de carbone dissous. Donc il va naturellement ressortir sous forme de bulles. Et si vous ne buvez pas le champagne, il faudra attendre un certain temps avant que tout le dioxyde de carbone soit évacué. Donc on peut faire ce calcul théorique à partir du moment où on connaît la façon dont les bulles grossissent, leur rythme. Et grosso modo, on tombe sur un chiffre assez facile à retenir qui est de l'ordre de 1 million.
1 million de bulles de champagne.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'une bulle ? Alors de champagne, puisqu'on est dans le champagne, qu'est-ce que c'est qu'une bulle ?
Alors la bulle de champagne, et je dirais même plus généralement d'une boisson...
boisson gazeuse.
C'est une petite sphère de dioxyde de carbone qui remonte dans le liquide.
Toujours une sphère, hein ?
Alors, jusqu'à ce qu'elle ait une taille de l'ordre du millimètre. Tant qu'elle est avec une taille de l'ordre du millimètre et plus petite, elle ne sera pas déformée, donc ce sera vraiment une sphère parfaite. Ensuite, si elle est légèrement plus grosse, elle va monter plus vite et il peut y avoir des déformations dues à la pression.
Donc une bulle, c'est que ça monte à la surface automatiquement, c'est ça, hein ?
Oui, la petite bulle dans le liquide, elle est soumise à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, donc elle remonte.
Si elle vous intéresse, hein, en tant que physicien, alors évidemment c'est parce que vous aimez le champagne et que vous avez fait des magnifiques photos de bulles de champagne dans ce livre, La vie secrète des bulles, mais c'est aussi, vous disiez que vous étiez aussi océanographe au départ, parce que les bulles, elles sont dans le champagne, mais pas seulement, elles sont quoi, dans l'écume des vagues de la mer,
ah
c'est
oui,
ça?
Ah oui, vous venez d'évoquer les bulles effectivement qui explosent à la surface de l'océan, alors... On peut même donner le chiffre, il y a des océanographes qui eux aussi se sont amusés à calculer ça. Toutes les secondes à la surface de l'océan, il y a environ 100 milliards de bulles qui explosent.
100 milliards de milliards de bulles, c'est les vagues,
c'est les vagues qui déferlent. Alors c'est pas des bulles de dioxyde de carbone, c'est effectivement les vagues qui déferlent vont emprisonner des bulles d'air qui vont remonter à la surface et qui vont éclater. Et c'est pas juste anecdotique, hein, donc ce sont ces bulles-là et ces explosions qui vont projeter dans l'atmosphère des micro-gouttelettes qu'on appelle les embruns. Et ça, c'est un vrai rôle à jouer parce que ça va vous catapulter dans l'atmosphère chaque seconde des tonnes d'embruns qui, lorsque l'eau va s'évaporer, il va rester juste la matière sèche, c'est-à-dire les minéraux qui sont le sel. Et ça va être pris par les vents, ça va se retrouver dans la haute atmosphère, dans la stratosphère. Et ça peut avoir un vrai rôle et une vraie influence sur le climat. Ça va jouer avec les radiations solaires. On sait que ces masses vont se déplacer et il y a un réel rôle de ces embruns sur le climat.
Donc de l'effervescence, du pétillement, du fait que ça tourbillonne les bulles, c'est ça?
Exactement.
Et c'est le même phénomène, au fond, que vous étudiez.
Exactement. À micro-échelle,
c'est dans le champagne.
Ouais, voilà. Vous avez effectivement l'échelle globale, l'échelle planétaire. Mais nous, dans notre petite flûte de champagne, qui fait quelques dizaines de millilitres, on a effectivement des phénomènes du même ordre.
Des phénomènes du même ordre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier aux bulles de champagne, précisément, par rapport aux bulles de soda? Alors, je parle pas aux bulles qui explosent au-dessus de l'océan.
Alors, au niveau de la formation, sur la base, c'est la même chose. C'est le liquide qui est chargé en dioxyde de carbone qui doit l'évacuer. Il l'évacue sous forme de bulles. Alors, on verra peut-être plus tard exactement comment elles se forment. Quand les bulles se forment, elles vont remonter à la surface. Elles vont continuer à capter le dioxyde de carbone. Mais dans le cas du champagne, elles vont aussi capter toutes les molécules aromatiques qui ne demandent qu'à s'évaporer. Alors les petites bulles sont des sphères qui vont permettre aux molécules de passer à l'intérieur et donc finalement de les ramener à la surface. Et lorsque la bulle éclate, elle va projeter à la fois son dioxyde de carbone, mais ça c'est pas très intéressant, elles vont aussi projeter toutes les molécules aromatiques dont elles se sont chargées. Et c'est ça qui va créer cet effet aromatique lorsqu'on va mettre son nez.
Et c'est là que vous intervenez, Clara Cylindre, parce que justement, ce sont les arômes qui sont transportés dans ces bulles.
Tout à fait. Donc, les bulles jouent le rôle d'exhausteur hein, d'arômes.
Quand on dit exhausteur de goût, ça, c'est exhausteur d'arômes,
oui,
c'est
oui.
ça hein.
Oui, mm-hmm. tout à fait. Donc, plus vous aurez de bulles dans votre verre et plus vous aurez la chance de pouvoir ressentir des arômes particuliers au-dessus de votre verre. Donc,
plus il y a de bulles, et mieux c'est.
Mieux c'est, mais bon, après, les bulles transportent également le gaz carbonique, qui est une molécule qui est susceptible aussi de masquer, de vous provoquer une piqûre aussi.
Qui va masquer l'arôme ou le goût.
Voilà, qui est susceptible de masquer un petit peu l'arôme ou le goût en début de dégustation. Donc, il est préférable d'attendre un petit peu quand votre verre est servi pour pouvoir sentir un peu plus de complexité, on va dire, de votre vin.
Voilà déjà une bonne chose qu'on va retenir pour la prochaine fois qu'on aura une coupe de champagne en main autour de la question pourquoi étudier les bulles, c'est champagne aujourd'hui. Avec Jacques Higelin sur RFI.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Aux îles noires, près de la mare aux oubliettes, venu du sphère obligatoire. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, faire marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale. Charme nous amène, envahis par la mélancolie.
Champagne avec Jacques Higelin sur RFI autour de la question pourquoi étudier les bulles de champagne en laboratoire à l'Université de Reims. Nous sommes en compagnie du physicien Gérard Léger-Belair et de la biochimiste Clara Cylindre qui nous font pénétrer dans la vie secrète des bulles. Titre du très beau livre que vous venez de publier au Cherche Midi, Gérard Léger-Belair. Les bulles de champagne sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. On écoute à ce sujet Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
Il y a deux questions qui reviennent constamment quand on parle de champagne. La première, c'est est-ce qu'il vaut mieux le boire dans une flûte ou dans une coupe? La deuxième, c'est comment se forment les bulles? C'est-à-dire comment se fait-il qu'il y ait des champagnes à petites bulles et d'autres à grosses bulles? Et est-ce que ça a une influence, et laquelle, sur son goût?
On va répondre dans l'ordre à Carole Châtelain de Science et Avenir. Alors, coupe ou flûte, Gérard Léger-Belair?
Coupe ou flûte, ça a fait effectivement l'objet d'un certain nombre de travaux qu'on a fait avec
De Clara. Travaux sérieux?
Oui, 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 ouais, on a fait des travaux
pour
à ce
les
sujet.
Arômes
Alors, on s'est d'abord intéressé au dioxyde de carbone, sachant ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le dioxyde de carbone, lorsqu'il est présent en trop grande quantité, il a un effet très désagréable sur le nez, il vous pique. Donc c'est sur cette base-là qu'on a été regarder qui est le meilleur contenant. Alors, en fait, la réponse, c'est aucun des deux, et c'est assez simple à comprendre. La flûte, alors donc c'est un contenant... très étroit. La flûte, elle va concentrer sur sa surface très étroite justement des concentrations de dioxyde de carbone qui sont trop importantes. Donc si vous mettez votre nez au-dessus d'une flûte et que vous inspirez, vous allez ressentir malheureusement uniquement l'effet piquant du dioxyde de carbone, en tout cas dans un premier temps, qui va masquer complètement les arômes qui sont aussi présents, mais qui ne peuvent pas être ressentis à cause du dioxyde de carbone.
Donc c'est pas bon pour le nez, la flûte.
Non,
hein,
la flûte trop étroite, elle est pas bonne du tout. Alors l'autre cas inverse, évidemment, c'est la coupe qui est très évasée. Alors là, on n'a aucun problème de surconcentration de dioxyde de carbone, parce que le dioxyde de carbone s'étale sur une grande surface. Mais là, il y a un autre problème qui vient, c'est que les arômes aussi s'étalent sur une grande surface. Donc, on en perd beaucoup. Même si vous dégustez un très grand champagne dans une coupe, il va vous paraître très peu aromatique au nez.
Alors, dans quoi faut-il boire le champagne?
Eh ben, c'est finalement assez simple. C'est un contenant de forme relativement intermédiaire. Et maintenant, la tendance actuelle depuis quelques années, c'est des verres qui sont finalement très proches dans leur forme, des verres qu'on utilise pour boire les vins tranquilles.
Les vins tranquilles, donc oui. Les vins qui ne sont pas
effervescents. Voilà, oui, les vins tranquilles, c'est les vins qui ne pétillent pas.
Ouais. Ah là, c'était le, je sais pas si c'est le physicien qui parle ou l'amateur de vin. L'autre question, c'était, donc, petites bulles ou grosses bulles. Au fond, comment se forment les bulles d'abord?
Alors, pour que les bulles se forment dans le verre, il faut, que le verre ne soit pas absolument propre. Ça, c'est étrange.
Il faut un verre sale. Alors, sinon, il n'y a pas de bulle.
C'est pas vraiment que c'est sale, c'est qu'il faut.
Oh non, mais vous détruisez tout le romantisme autour du champagne.
Mais c'est pas vraiment de la saleté. Il faut qu'il y ait des micro-poussières qui soient accrochées à la surface. Et des micro-poussières, il y en a toujours, hein. Même dans des verres propres, lorsqu'ils sont stockés à l'air libre, il y a des tas de petites poussières qui flottent dans l'atmosphère, qui vont venir naturellement tapisser la surface du verre. C'est pas de la saleté, c'est des micro-poussières. Et c'est ces micro-poussières qui vont jouer le rôle de catalyseur et qui vont être capables de capter le dioxyde de carbone et de le relâcher sous forme de bulle.
C'est-à-dire si on avait un verre, comment dire, complètement aseptisé, il y aurait pas de bulle.
Oui, on l'a fait plusieurs fois en laboratoire. Bon, c'est quand même déjà un traitement. Hein. Il faut le laver avec des bains d'acide. Mais si vous faites ça, effectivement, vous débarrassez toutes les particules de la surface. Et quand vous versez le champagne dans un verre parfaitement propre, eh ben il y a absolument pas de bulle qui se forme.
Donc il faut un verre avec ces microparticules. Oui. Et c'est comme ça qu'elles s'accrochent et elles se forment les bulles. Alors les petites bulles ou les grosses bulles, à qui faut demander ça?
Alors, bon, on a des éléments de réponse.
Oui.
Effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les petites bulles signent les très grands champagnes? Est-ce que les grosses bulles les champagnes moins bons? Alors, la taille des bulles, elle est d'abord liée à la quantité de dioxyde de carbone dissous qu'il y a dans le vin. Et le premier paramètre qui pilote cette quantité de dioxyde de carbone, c'est le sucre qui a été mis au moment de la seconde fermentation en bouteille. Donc c'est finalement
c'est la main de l'homme et c'est le sucre.
Voilà, c'est l'élaborateur du champagne qui va décider de mettre plus ou moins de sucre à cette étape-là, et la quantité de dioxyde de carbone formée va être proportionnelle à la quantité de sucre. Alors si il décide de mettre moins de sucre, il aura moins de dioxyde de carbone et donc des bulles plus fines. Ça c'est le moyen le plus simple de faire un champagne à petites bulles.
Donc un champagne peut-être meilleur est un champagne avec moins de sucre et des plus petites bulles, ou c'est aller un peu trop vite en besogne?
Non, c'est effectivement aller trop vite, parce que là pour le coup c'est uniquement si vous achetez par exemple un mousseux à très bon marché en supermarché qui a été élaboré avec une petite quantité de sucre. Il va vous faire des petites bulles, mais le problème c'est que les arômes de ce mousseux sont très pauvres et il sera pas bon. Mais il fera des petites bulles. Donc il y a pas vraiment d'association à faire entre la taille des bulles et le fait que le champagne va développer des bons arômes ou pas. C'est d'abord
extrêmement complexe. En fait, on se rend compte que voilà pourquoi des physico-chimistes l'étudient, c'est extrêmement complexe.
C'est d'abord un problème de physico-chimie. Oui.
C'est d'abord un problème de physico-chimie.
Oui.
Donc de comprendre précisément ce qui se passe, comment ça se passe, et du coup comment on peut l'améliorer, comment on
peut
en tirer le meilleur.
Voilà,
et au niveau des arômes, Clara Cylindre, c'est pareil, c'est un problème de physico-chimie. Une fois qu'on le comprend en chimiste...
C'est encore plus complexe parce que les arômes peuvent provenir de différentes origines, en tout cas dans un vin ou dans un vin effervescent ou tel que le champagne. Ils vont provenir avant tout du raisin, donc de la matière première, mais aussi de tout le travail qui est réalisé par les micro-organismes, donc les levures, les bactéries qui peuvent être utilisées aussi pendant la fermentation maléactique. Et ensuite, dans le champagne, on a une étape qui est très importante, qui est le vieillissement sur lit, donc après la seconde fermentation alcoolique en bouteille, où vous allez avoir des arômes beaucoup plus complexes qui vont se développer pendant cette étape et qui vont apporter vraiment des typicités pour certains champagnes. Donc, il y a énormément d'étapes, en tout cas, dans l'élaboration d'un champagne qui peuvent jouer justement sur toute la complexité aromatique de ces vins.
Et chaque champagne est différent, on pourrait presque dire que chaque bulle est différente. Autour de la question pourquoi étudier les bulles, on continue de s'interroger sur tous ces phénomènes physiques effervescents en votre compagnie. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info, on se retrouve pour coincer les bulles de champagne ensemble, mais aussi peut-être les bulles de soda, pourquoi pas, ou même de bière. À tout de suite.
de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la deuxième partie de cette émission effervescente autour de la question pourquoi étudier les bulles de champagne, mais aussi de soda ou de bière en laboratoire. Nous sommes en compagnie de la biochimiste Clara Cylindre et du professeur Gérard Ligé-Belair, physicien et directeur du laboratoire Effervescence, Champagne et Applications CNRS à l'Université de Reims, qui vient de publier Champagne, la vie secrète des bulles aux éditions du Cherche Midi. Champagne donc avec dégustation sonore au micro de Jérémy Bazar, qui lui aussi a coincé la bulle, mais dans une cave du XVIIe siècle, s'il vous plaît, en compagnie de vignerons bio.
Donc celui-là, c'est un millésime 2004 de la vallée de la Marne. Donc sur celui-là, on va être sur 40% de chardonnay et 60% de pinot noir. On connaît une belle évolution au niveau des fruits. Sur la pomme, la poire, on est également sur l'amande. On ressent une certaine fraîcheur et c'est vraiment là d'où provient l'amande. On sent le côté, également le côté crayeux dû au terroir.
Je suis Antoine Crétel, donc je suis en alternance, je travaille 15 jours ici, donc à dilettante, et 15 jours je suis en cours à l'Institut Clorivière. Donc c'est un BTS technico-commercial vin et spiritueux.
Vous pouvez me présenter un petit peu le lieu où on se trouve ici?
C'est une cave du XVIIe siècle, donc qui a été fait creuser par Louis XIII. On a disposé plusieurs pupitres pour répartir nos 25 vignerons sur les 4 terroirs de Champagne.
Quelle est la différence entre les bulles du champagne et les bulles d'une boisson gazeuse?
Une boisson gazeuse, on va injecter du gaz carbonique, donc c'est plutôt facile. Alors qu'une du champagne, ça va être la levure, on va mettre des levures et du sucre. Le sucre qui ne va pas engendrer un goût sucré sur le champagne, mais c'est vraiment pour que les levures puissent manger le sucre. Et en les mangeant, on va avoir cette réaction qui s'appelle la prise de mousse.
Et est-ce que la taille, la forme, le nombre de bulles change en fonction des champagnes?
Ah oui, bien sûr. Ça dépend du temps de vieillissement, ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend du sol, du terroir. Mais vraiment, le temps de vieillissement, et s'il y a eu un passage en fût de chêne, ça change vraiment le côté de la finesse des bulles. Généralement, un champagne vieux va avoir des bulles plus grossières, mais ce n'est pas un défaut. C'est juste que c'est le temps de vieillissement influe sur la bulle.
Le temps de vieillissement influe sur la bulle, c'est vrai ce que racontait Antoine Crétel, donc qui est en alternance en BTS, à notre reporter Jérémy Bazar, Clara Cylindre.
Alors oui, c'est vrai que le temps de vieillissement va avoir une influence sur la taille des bulles, mais elle va plutôt avoir tendance à diminuer la taille des bulles. Plus vous allez laisser vieillir votre vin en cave, et plus vous allez perdre de dioxyde de carbone. Donc
il y aura moins de bulles.
Vous aurez moins de bulles dans votre champagne.
Et est-ce que le champagne sera moins bon parce qu'il y aura moins de bulles ou...
Non, pas du tout. Comme vous aurez moins de dioxyde de carbone, donc vous allez être moins gêné justement par cette piqûre qui peut être engendrée par le dioxyde de carbone, mais ça va laisser la place à des arômes qui vont se développer donc au cours du vieillissement du vin, et des arômes plus complexes. Voilà, donc c'est une autre expérience gustative.
Une autre expérience gustative du champagne et des bulles. Oui. Vous travaillez d'ailleurs en collaboration avec des vignerons, avec des spécialistes du champagne. Vous avez des étudiants en œnologie aussi dans ce laboratoire, c'est ça? C'est vraiment là pour le coup la physique des fluides avec ceux qui produisent le champagne. Pourquoi? Pour améliorer le champagne, pour mieux comprendre, leur faire mieux comprendre aussi?
Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'être au cœur du terroir champenois, donc on
à Reims,
est à Reims. Donc on a effectivement, on forme des étudiants en œnologie, et puis on est au contact direct des producteurs. Alors, par exemple, justement sur ce livre qu'on a édité au Cherche Midi.
La vie secrète des bulles.
Voilà, un des autres auteurs, c'est Dominique de Marville, qui est le chef de cave de la maison Veuve Clicquot. Donc c'est quelqu'un qu'on est amené à rencontrer très régulièrement au cours de conférences qu'on peut donner en Champagne. Et voilà, Dominique de Marville, lui, étant le chef de cave, c'est vraiment lui le technicien qui élabore le champagne, et il vient régulièrement avec des questions auxquelles de temps en temps on arrive à répondre, de temps en temps on n'arrive pas à répondre.
Donc lui arrive avec des questions, au fond il a des besoins. Est-ce qu'il comprend, lui, vous lui avez appris un peu les mécanismes physico-chimiques? C'est important de savoir.
C'est notre rôle de réussir à le décliner aussi bien possible pour le grand public. Alors c'est vrai que c'est des phénomènes pour certains qui sont vraiment extrêmement complexes. C'est de la mécanique des fluides, c'est de la chimie extrêmement complexe. Bon, c'est aussi notre rôle de rendre tout ça accessible.
accessible. Donc, bien aux sûr. Étudiants en œnologie qui viennent de France, évidemment. D'ailleurs aussi, pour apprendre.
Ah oui, là, ils peuvent, on a des étudiants qui viennent de Champagne, mais on a aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs, bien sûr.
De quel pays?
Alors, on a de temps en temps des étudiants chinois. Sinon, on a des étudiants qui viennent d'autres régions françaises. Je pense en Champagne pour avoir la spécificité aussi liée à la bulle. Il y a quand même quelque chose de particulier qui se fait en Champagne.
Quelque chose de particulier, c'est le champagne. Mais la bulle, en même temps, elle est présente, on va dire, d'autres boissons gazeuses. Vous étudiez aussi les bulles de soda, par exemple?
Absolument, oui. Donc on étudie le champagne, mais aussi les bulles d'autres boissons effervescentes. Il se trouve que notamment en ce moment avec Clara, on a un travail ponctuel avec un célèbre soda au caramel.
Oui, je crois qu'on voit ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez sur ces bulles-là?
Ils nous ont donné un certain nombre d'échantillons avec des formulations différentes, sans nous donner évidemment le détail de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le but du jeu est de voir si ces différentes formulations vont avoir un rôle à jouer sur la taille des bulles, la vitesse à laquelle le soda va dégazer en conditions de dégustation. Donc ça, c'est vraiment des choses qui impactent directement le consommateur. Le consommateur, lui, il se sert innocemment un verre et ce verre va progressivement dégazer. Alors peut-être que ça peut se faire plus ou moins vite suivant les formulations qui ont été mises à l'intérieur.
Et comment vous testez tout ça? Avec quels appareils? Parce que vous goûtez pas, on a bien entendu dans ce misque tous les matins, vous ouvrez une bouteille de champagne tout de même, mais c'est pas pour goûter.
Alors voilà, c'est pas pour la goûter, donc on a des outils de laboratoire qui nous permettent de doser très finement le dioxyde de carbone. On a compris que c'était la molécule clé quand même, c'est elle qui fait la bulle.
Donc c'est elle qui fait la bulle, mais en même temps, Clara le disait tout à l'heure, c'est elle qui peut empêcher de qu'on goûte les arômes, les autres arômes.
Exactement, elle a un rôle un peu ambigu. C'est que évidemment, il faut qu'elle soit là, sinon si elle n'est pas là, il n'y a pas de bulle. Mais s'il y en a trop, elle va faire à la fois trop de bulles et surtout des concentrations en dioxyde de carbone qui ne sont pas souhaitables.
Et les bulles, ça fait de la mousse toujours ou pas toujours?
Alors, ce qu'on appelle la mousse, c'est effectivement un conglomérat de bulles à la surface. Alors,
vous avez des photos extraordinaires de mousse. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça, de véritable univers. C'est un univers.
C'est gentil.
Des mousses qui font même des fleurs, c'est ça?
Oui. Alors, quand vous avez ces bulles qui se retrouvent toutes à la surface, si elles ont une durée de vie qui n'est pas nulle, c'est-à-dire qu'elles vont vivre un petit peu à la surface, elles vont pouvoir s'agglomérer, de temps en temps éclater les unes à côté des autres. Et je pense que c'est à ce genre de photo que vous faisiez allusion. Quand il y a une bulle qui éclate au contact de bulles voisines, ça fait une petite dépression et du coup les bulles voisines sont complètement aspirées par cette dépression et pendant quelques microsecondes, vous avez une petite structure qui ressemble à une fleur.
Une fleur de mousse. Alors, ouais. La mousse du champagne, c'est la même que la mousse, on va y venir, de la bière?
Non, et là, il y a une classe de molécules qui joue un rôle fondamental, c'est ce qu'on appelle des molécules tensioactives. Alors, la bière a beaucoup plus de molécules tensioactives en son sein que le champagne.
Et c'est ce qu'il y a aussi dans les bulles de savon, si je ne m'abuse.
Voilà, c'est exactement le même principe. Quand vous avez des molécules tensioactives, c'est des molécules qui vont venir tapisser les bulles et qui vont les protéger, en fait, qui vont les faire durer beaucoup plus longtemps que s'il n'y en a pas. Donc, si vous avez des molécules tensioactives à la surface des bulles de bière, elles vont durer beaucoup plus longtemps et c'est ça qui vous explique qu'il y a des mousses de bière qui sont beaucoup plus compactes et durables que les mousses du champagne, qui sont un peu plus éphémères.
Autour de la question pourquoi étudier les bulles et les mousses, c'est un vaste champ de recherche, on l'a compris, en physique des fluides. Un de vos collègues, le physicien Alban Sorey du laboratoire Surface du Verre et Interface du CNRS, en collaboration d'ailleurs avec des chercheurs de l'université de Princeton et de New York aux États-Unis, a lui étudié donc la mousse de bière. Pourquoi la bière est-elle plus facile à transporter qu'une tasse de café? Ses travaux ont fait l'objet d'une publication dans l'éminente revue scientifique Physics of Fluids. Écoutez l'éclairage donc d'Alban Sorey sur la mousse de bière au micro de notre reporter en bulle, Hugo Struna.
Donc, ce qu'on a pu montrer en fait, c'est que la présence de mousse à la surface d'un liquide, donc par exemple dans le cas d'une Guinness, permettait d'amortir...
Guinness qui est une bière irlandaise très connue.
Permettait d'amortir en fait l'oscillation du liquide lorsqu'on transportait ce verre. Donc si par exemple vous stoppez parce que vous percutez quelqu'un, le liquide aura moins de chances de déborder que si vous transportez un café où il n'y a pas de mousse.
Est-ce que ça concerne toutes les boissons gazeuses à bulles ou est-ce que ça concerne uniquement la bière?
Donc malheureusement ça ne va pas concerner toutes les boissons, il faut que la mousse puisse rester à la surface. Donc par exemple le champagne où la mousse n'a pas une tendance à rester, ça ne marchera pas aussi bien. Mais si on considère par exemple du cappuccino ou des cafés latte où la mousse reste en surface, on verra bien le même effet.
Alors comment vous avez procédé pour arriver à ces résultats?
Alors bien sûr, on ne peut pas faire des expériences avec des bières réelles, ça serait un peu trop compliqué à comprendre. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment d'utiliser un récipient modèle au laboratoire dans lequel on a mis d'abord de l'eau et on a regardé comment l'eau se comportait. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'en rajoutant notamment un peu de liquide vaisselle. Ça nous permet de générer une mousse bien propre, de taille bien contrôlée, d'épaisseur contrôlée. Et on a encore continué à faire osciller ou faire freiner brutalement ce récipient. Et on a regardé comment les vagues se propageaient à la surface du fluide et comment ces vagues s'amortissaient au cours du temps et la contribution de la mousse. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, en présence de mousse, le liquide oscille moins et on a pu quantifier ça plus précisément.
Est-ce que tout ça pourrait déboucher sur des applications industrielles ou commerciales ?
Donc en pratique, le transport de fluide de manière industrielle, ça a marché à plusieurs milliards d'euros par an. Et en fait, pouvoir sécuriser ce transport, donc par exemple, lorsque le camion citerne est rempli à moitié, avance et d'un coup freine, le liquide qui est à l'intérieur va avoir une tendance à le faire dévier de sa trajectoire, par exemple. Et le fait de pouvoir rajouter quelque chose qui va le stabiliser, c'est définitivement quelque chose qui intéresse les industriels. Donc pour appliquer cette méthode toute simple qu'on a pu observer, mais que tout le monde peut observer à des cas industriels, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Si on pense à des applications industrielles comme le pétrole, il y a des mousses qui ne vont pas avoir tendance à se mélanger au pétrole, et donc dans ce cas-là, on pourrait rajouter cette mousse à la surface, et à la fin du transport, l'évacuer. Donc dans ce cas-là, ça pourrait marcher.
De l'utilité d'étudier les mousses en général, et la mousse de bière en particulier, vous voulez réagir au propos de ce chercheur, donc Alban Soret, Gérard Légibélaire ?
Alors oui, c'est vrai que c'est un article assez récent qu'on a eu l'occasion de lire au laboratoire, et ça montre effectivement comment des petites expériences un peu anodines,
et assez farfelu, on dit mais pourquoi est-ce qu'il faut étudier comment un verre de bière se transporte mieux qu'une tasse de café?
Et alors non seulement les résultats sont intéressants du point de vue scientifique, mais ils sont vraiment applicables à l'échelle de l'industriel, et en plus le fait de travailler comme ça sur des choses finalement qui parlent à tout le monde, et ben ça permet quand même de rendre la science accessible au plus grand nombre. Et puis un point moi qui me paraît extrêmement important, c'est de générer éventuellement des vocations chez les jeunes. C'est quelque chose qui est un peu en perte de vitesse depuis un certain temps. Si vous parlez à des jeunes de physique, de chimie et de sciences en général, avec des mots trop compliqués...
Physique des fluides, ça donne moyennement envie.
Voilà, c'est pas très glamour, c'est un peu inquiétant, il y a des équations, c'est vrai que c'est difficile, il faut pas raconter non plus des bêtises, c'est des sciences qui sont complexes. Mais si quand même, de temps en temps, vous montrez qu'on peut utiliser des objets du quotidien, forcément la bière, je vous cache pas que ça intéresse les étudiants, le champagne aussi, tout de suite, vous avez l'attention de votre public, de ces jeunes, et puis petit à petit, vous les emmenez sur des terrains, et certains vont comme ça découvrir des vocations.
Clara Cylindre, vous confirmez ça, vous qui étudiez donc les arômes, enfin je veux dire, ce sont aussi des sujets faciles à faire passer, à partager, les bulles, les mousses.
C'est vrai qu'on a la chance de travailler sur un sujet qui parle très facilement au public, et à nos étudiants également. On essaye toujours, dans nos enseignements en tout cas, de pouvoir enrichir nos enseignements, justement, des expériences qu'on mène au laboratoire. Et c'est vrai que ça intéresse très facilement les étudiants de pouvoir travailler sur des sujets comme ça, très concrets.
Et en même temps, qui ont des applications. Enfin, on le disait, vous travaillez sur le champagne avec des vignerons. Il y a des applications aussi immédiates de vos recherches. Vous avez des questions pratiques et il y a des applications immédiates. Ça aussi, ça doit être assez valorisant, au fond, pour un chercheur.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaie d'être au plus proche de la profession en champagne et des questions des sujets sur lesquels ils souhaitent travailler actuellement. Et on travaille également avec des verriers pour justement parler de la forme du verre. Donc on est en contact aussi, en collaboration avec des verriers, justement pour essayer de travailler sur différentes formes de verre et voir quelle est la meilleure forme pour pouvoir déguster un champagne et apprécier toutes les qualités d'un champagne, par exemple.
Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de ceux avec qui vous travaillez, justement ?
Alors, vraiment, cette histoire de finesse de bulle, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent, parce que c'est dans l'imaginaire des consommateurs. Et même moi, le premier, avant d'arriver en Champagne, j'étais intimement convaincu que la finesse des bulles était le signe, forcément, des très grands champagnes. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est justement en allant regarder les choses sous l'angle de la science qu'on peut répondre à ces questions-là.
Parce que c'est pas en goûtant que vous en rendez compte. Enfin, vous goûtez quand même de temps en temps.
Je goûte de temps en temps, mais c'est clairement pas mon quotidien. Mon quotidien, c'est plus les équations, les éprouvettes, les appareils photo.
C'est ça, c'est équations, éprouvettes et appareils photo. Parce que ça, c'est assez étonnant. Vous êtes photographe et vous faites des photos dans lesquelles les bulles, c'est quoi? On dirait presque des univers à elles seules. Photographier des dessus de coupes de champagne. On se demande ce que c'est, si c'est la Terre, l'univers, la Voie lactée.
C'est vrai que le matériau bulle, je dirais, est extrêmement esthétique, parce qu'avec le jeu de la lumière, on a des très beaux contrastes. Et puis, effectivement, comme vous le dites, dès qu'on enlève la couleur... Alors, j'ai volontairement fait ces images en noir et blanc. Je les ai faites aussi en couleur, je les trouvais beaucoup moins belles. Et dès qu'on passe sur le noir et blanc, on est vraiment dans l'univers du cosmos quasiment. On a l'impression de voir la Voie lactée, de voir des rassemblements de bulles qui évoquent des planètes, des galaxies. Et les phénomènes, dès qu'on commence à photographier ou filmer des phénomènes avec ce qu'on appelle des techniques de photographie haute vitesse, c'est-à-dire qu'on emploie des flashs extrêmement brefs qui vont figer tous les mouvements, même les plus rapides. Par exemple, on s'est amusé à filmer, à photographier des bulles qui éclatent. Alors, il faut savoir qu'une bulle éclate en à peu près 1/1000 de seconde.
Ah, donc on voit rien du tout.
Donc on voit rien du tout à notre échelle. Donc on est obligé d'utiliser ces outils-là pour voir les différentes phases. Et là, c'est extraordinairement beau, d'abord.
Et ça intéresse aussi le physicien que vous êtes. Ça vous a permis de comprendre des choses, ces images?
Mais c'est moi, mon sens le plus développé, c'est la vue. J'ai besoin de voir de
Donc c'est
de...
pas le nez, même si vous étudiez les bulles de champagne et les bulles de champagne.
Non, c'est vraiment la vue. J'ai besoin de voir des beaux phénomènes pour m'y intéresser et pour faire fonctionner l'imaginaire. Vraiment, il faut les équations seules me lasseraient, me barberaient. Mais dès qu'elles viennent nourrir des belles images, des beaux phénomènes, là, je trouve que vraiment, ça devient très harmonieux.
Finalement,
et fascinant.
C'est pas mal votre, parce que vous avez les équations d'un côté, ouais. Les magnifiques photos de l'autre. Vous pouvez quand même avoir le verre de champagne à la main.
Je dois reconnaître que je suis le plus heureux des chercheurs.
Ouais. Autour de la question, pourquoi étudier les bulles? On va les écouter pétiller avec Champagne for Gypsies, l'orchestre de Goran Bregovic sur RFI. For Gypsies, toute la nuit ou presque sur RFI avec Goran Bregovic. Autour de la question, pourquoi étudier les bulles de champagne en compagnie de la biochimiste Clara Cylindre et du physicien Gérard Ligier-Belair? Le champagne est tout de même une spécialité, une spécificité effervescente française. Tout comme votre laboratoire de recherche à l'Université de Reims, il n'y en a pas d'autres comme ça, j'imagine, dans le monde.
C'est vrai qu'on a la chance, finalement, de ne pas avoir de concurrence dans le domaine. On a créé une petite structure très spécialisée autour de ces phénomènes d'effervescence. Alors, on a des collaborations, évidemment, à travers le monde, mais on est les seuls à s'occuper des bulles, des boissons gazeuses effervescentes.
Autour de la question, pourquoi étudier les bulles de champagne? Je pense donc que vous êtes peut-être le seul à être capable de répondre à la question pétillante de Philippe Hénarejos du mensuel Ciel et Espace.
Et si on boit du champagne dans l'espace?
Est-ce qu'il aura y a des bulles et vers où vont-elles?
Est-ce qu'il y aurait des bulles dans l'espace en apesanteur? C'est possible déjà?
Alors c'est tout à fait possible d'ouvrir une bouteille de champagne dans l'espace, rien ne l'interdit. Par contre, ça deviendrait très compliqué de le servir dans un verre.
Ah oui.
Parce que déjà pour le servir, il faut de la gravité. On est en gravité zéro, donc on serait complètement incapable de verser le champagne dans un verre.
Ah, donc il resterait dans la bouteille. Alors si on le boit au goulot?
Alors on peut pareil au goulot, il faut qu'il tombe, donc ça tombera pas.
Ah,
à la
oui.
paille, ça peut marcher à la
à
paille.
À la paille.
Il va falloir qu'on aspire, ça marche. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans la bouteille, des bulles vont se former. Et là, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que les bulles vont se former, pas de problème, mais si quand même, parce que pour qu'elles remontent, il faut la fameuse poussée d'Archimède. Et on a de la poussée d'Archimède que si on a de la gravité. Donc les bulles ne pourront pas remonter, elles vont grossir sur place, et elles vont finir très vite par faire déborder le liquide.
Bon, bah, faut pas emmener de champagne dans l'espace.
Qui va commencer à flotter dans la station.
Non, c'est pas bon.
C'est catastrophique.
C'est catastrophique. Bon, bah, on va redescendre, on va pas boire du champagne dans l'espace. Par contre, Clara Cylindre, vous menez des travaux, alors c'est pas au fond de l'océan, mais sur des épaves, une épave, dans laquelle on a retrouvé peut-être le plus vieux champagne au monde.
Tout à fait. Donc, au cours de l'été 2010, il y a un plongeur qui a découvert une épave, donc, au large des îles Åland, donc, dans la mer Baltique. Et donc dans cette épave, il y avait une centaine de bouteilles qui étaient encore présentes et intactes.
De bouteilles de champagne.
Et en remontant donc ces bouteilles, effectivement, ils se sont rendus compte que c'était du champagne. Et on a, à partir de recherches qui ont été menées donc dans des archives et notamment aussi avec la marque à feu qui est présente sur le miroir du bouchon, on a pu retrouver la marque de ces bouteilles de champagne. Donc c'est un champagne qui a été élaboré par la maison veuve Clicquot. Et des bouteilles qui dateraient en tout cas des années 1840.
Donc élaborées par la veuve Clicquot elle-même.
Certainement élaborées par la Madame Clicquot effectivement. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler sur quelques échantillons qui ont été découverts à cette époque. Et
c'est encore du champagne.
Oui, c'est encore
bon,
du champagne.
Encore se boire.
Alors bon, nous on a travaillé vraiment sur. C'est un liquide qui est très précieux. On a des échantillons qui sont très précieux. Donc on a travaillé vraiment que sur quelques millilitres de vin en collaboration donc avec des amis qui sont chercheurs donc à Munich et également à Dijon et d'autres chercheurs également de Reims. Donc on est différents chercheurs à avoir travaillé sur ces échantillons et on a pu déterminer justement les molécules aromatiques notamment qui étaient présentes dans ces vins et qui signent vraiment la présence en tout cas d'un champagne dans ces bouteilles, oui.
Et qui pourrait peut-être inspirer quoi les vignerons d'aujourd'hui pour refaire le même champagne ou ça pourrait aussi donner être une source d'inspiration.
Je pense que un des résultats majeurs de ce travail, c'est de montrer que le champagne de l'époque était finalement quand même assez différent du champagne d'aujourd'hui, notamment par la présence de sucre qui aujourd'hui nous semblerait complètement délirante.
Il était beaucoup plus sucré.
Il était, je crois, à
150 grammes par litre.
Alors ça parle pas comme ça tellement, mais c'est trois fois plus sucré que les sodas, par exemple.
Ah oui, donc un champagne très très sucré et avec beaucoup de bulles.
Alors pour le coup, les bulles ont disparu, mais ça c'est pas une surprise. C'est que 170 ans sous l'eau, le dioxyde de carbone a diffusé à travers le goulot et a disparu.
Qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir? J'imagine plein de choses sur les bulles de champagne en particulier et sur les bulles en général.
Alors, je dirais qu'autour du champagne, maintenant vraiment l'univers qui est encore vraiment à creuser, c'est l'univers des arômes. Donc là vraiment avec le travail de Clara, parce que comme elle le disait tout à l'heure, les cépages vont apporter leur spécificité aromatique. On sait que le vieillissement va aussi lui contribuer à modifier progressivement les arômes.
Et puis donc si on se sert ni de flûte ni de coupe mais d'un verre normal, on les sentira plus avec notre nez.
Exactement,
les arômes.
Le verre et sa forme ont un rôle à jouer. Voilà, il y a tous ces acteurs qui jouent en même temps, qui font que finalement on a affaire à un phénomène extrêmement compliqué qui nécessite, si vraiment on veut le comprendre jusqu'au bout, encore beaucoup d'années de recherche.
J'aimerais bien m'arrêter pour terminer sur une de vos photos. Alors j'ai mis un petit marqueur parce que je la trouve fabuleuse. Alors c'est pas une photo de bulle de champagne, mais c'est des photos de bulles.
Alors non, là celle qu'on voit ici, d'ailleurs c'est pas une de mes photos, c'est une photo de la NASA. C'est donc.
Mais qui fait penser à vos photos de bulles.
Alors voilà, c'est ça, c'est ce parallèle que j'adore. Là on voit la surface de la Terre. Notamment l'océan, et ce satellite qui a pris la photo a regardé la façon dont l'océan tourbillonne. On sait très bien tout ce qu'il y a des courants océaniques, et sur cette photo, on les voit très bien. Et si on compare ça avec une autre image, on se rend compte que à notre petite échelle, à la surface de la flûte, on a aussi des tourbillons.
Des tourbillons extraordinaires.
Et qui, alors non seulement, bon, ça fait des belles images, mais ça a un vrai rôle à jouer. Un liquide qui tourbillonne permet aux arômes de s'échapper beaucoup plus facilement qu'un liquide complètement au repos.
On va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur cette image de tourbillon. Merci d'être venu en direct pour nous faire partager avec autant d'effervescence tous vos travaux donc sur les bulles, champagne, la vie secrète des bulles, livre superbe dont vous signez donc les photos et le texte, Gérard Léger-Belair, avec une prépa, s'il vous plaît, du philosophe Michel Onfray. Ça vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Merci à tous les deux. Bon retour à Reims dans l'après-midi,
j'imagine.
Merci
beaucoup. Merci de votre invitation.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, autour de la question comment la science infuse effervescence d'un autre genre, avec nos collègues de la presse scientifique, il sera question d'intelligence artificielle et de réseaux sociaux, mais aussi la civilisation assyrienne ou ce qu'il en reste après les terribles destructions de Daesh à Mossoul et Nimroud. Nous nous arrêterons aussi sur quelques anomalies de l'univers et sur les fabuleuses images, tiens donc, du télescope Hubble, avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, restez curieux et effervescents, bien sûr, continuez de vous et de nous interroger. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Dans quelques instants, dans une toute petite minute, un nouveau journal sur RFI.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.